une création. Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Je me sens très fatiguée, je n'ai jamais été autant fatiguée de ma vie. Je sais que j'ai pas fini quoi, que c'est pas fini, ça va, c'est pas fini.
Épisode 15, Mireille, une femme de rien. Deuxième partie, se réparer et vivre enfin. Mireille a été la victime d'un homme, de sa cruauté. L'homme et son mari, le père de ses quatre enfants. Il a réussi à persuader Mireille qu'elle n'était rien, pire que rien, qu'elle était un poids pour lui, ses enfants, la société. Il l'a convaincue qu'elle était un monstre. Il le lui a répété, jour après jour, année après année. Elle a fini par le croire. Petit à petit, Mireille a cessé d'exister. 30 années de maltraitance, de violence psychique, ont conduit Mireille à sombrer dans la folie, à vouloir disparaître pour de bon.
Alors, il y avait des cachets, parce qu'il avait des anxiolytiques. Et j'hésitais entre les anxiolytiques ou sauter de la fenêtre de la salle de bain, mais j'étais pas sûre de m'exploser sur le béton en bas. Je commençais à décapsuler tous les anxiolytiques, je savais pas quoi faire. En même temps, j'avais peur de mourir, je voulais mourir, mais j'étais dans un état de... Et j'ai appelé le... Je connaissais, par le travail, le numéro... 3114 pour l'appel au secours pour le suicide. Et je suis tombée sur une écoutante et le discours de cette femme, c'était son obsession, c'était me faire sortir de la maison. Elle m'a demandé mon nom, je lui ai donné et j'habitais très à côté du CMP, c'est le centre médico-psychologique de la ville où j'étais. Et elle les a prévenus. Et elle me dit, vous prenez votre téléphone et puis on continue à parler, vous sortez de la maison. Et moi, je les ai prévenus, ils vont venir à votre rencontre. Si vous n'y allez pas, de toute façon, je déclenche l'ambulance, elle vient. Vous êtes en train de mourir. Vous allez vraiment mourir, il faut partir, vous allez les prendre, les cacher. Donc il faut sortir de cette maison, il faut que vous sortiez de la maison. Et moi, je disais, mais je ne suis pas coiffée, je ne suis pas habillée, je ne peux pas sortir. Et après, je suis sortie. Et l'ambulance, elle est venue. Et pendant que l'ambulance veut dire, mon mari est arrivé du travail, il a compris ce qui se passait. Il a dit un truc surréaliste. Alors, on n'a pas pris soin de toi. Je lui ai expliqué que je partais à l'hôpital, je ne comprenais rien, vraiment rien. Et lui, il a dit, et donc j'étais en train de lui... Sûrement que je devais lui dire, pour mon linge, je ne sais pas, je ne comprends rien, et puis je... À la ville où j'étais, il n'y avait pas d'hôpital psy, donc il a fallu que j'aille à Poitiers, ils m'ont transféré à Poitiers. Et je ne pouvais même pas imaginer, dans la solitude que j'étais, que cet homme il pourrait venir m'apporter des vêtements. Je ne savais pas qui allait me porter des vêtements, je ne savais pas quoi prendre. Et je n'avais pas beaucoup de sous-vêtements, je n'avais pas beaucoup de soutien-gorge. Il m'a dit, mais combien ça fait d'années que tu t'es pas acheté de soutien-gorge ?
Tu t'as dit ça ?
Oui. Et c'est la dernière phrase que, quand je suis partie ce jour-là de l'hôpital, et ça résonne, à l'hôpital, et ça résonne encore. Quoi.
Il t'a dit...
C'est oui, que ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris soin de toi, qu'on n'a pas acheté de soutien-gorge. Je suis partie. Et j'ai rien compris. Et là, j'ai atterri dans une unité psychiatrique fermée, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Et là, waouh, t'es déshabillé, on t'enlève tous les piercings, t'as plus d'affaires, t'as une blouse qui s'attache avec des boutons pression. Et puis comme je suis grosse, il a fallu une deuxième pour pas qu'on voie mes fesses. Tu peux pas accéder aux toilettes de ta chambre, t'as pas de coussin, t'as pas de thé d'oreiller, parce qu'il faut pas que tu t'étrangles avec. Et là, j'ai vécu un temps fou, je sais pas combien de jours, dans un état second. À partir du moment où il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un, que c'était karmique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, karmique. Et au moment où j'ai pris conscience que j'étais toute seule dans une chambre d'hôpital, parce qu'après ils m'ont changé, ils m'ont mis dans une unité ouverte. Enfin, j'étais en chambre sécurisée, mais j'avais pas accès à mes affaires, mais j'étais, j'avais même pas accès à un chouchou pour attacher mes cheveux parce qu'ils avaient peur que je m'étrangle avec. Et là, ça a commencé le balai des assistantes de l'assistante sociale qui venait. L'hôpital m'a sauvé la vie. Mais moi, ça m'agressait au début parce que je comprenais pas pourquoi elle voulait faire des dossiers pour que j'aie un appartement. Parce que l'équipe, la psychiatre, la chef de service qui après m'a reçu le lendemain, a tout de suite posé le diagnostic que j'étais femme victime de violence conjugale et femme victime d'emprise. Donc j'ai passé 5 mois et demi à l'hôpital. Et il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne que ce que je vivais, c'était pas normal. Mais j'avais tellement peur d'être, de ne pas être en capacité de pouvoir subvenir à mes besoins. D'être un fardeau pour les minots. Et de ne pas faire de vagues pour lui, que j'étais. La chambre d'hôpital était devenue mon espace, et pour moi, je n'allais. Il fallait que je. Ben, je ne projetais pas le lendemain. J'allais passer toute ma vie presque dans cette. Il y avait des moments où, au tout début, j'étais tellement ahurie que pour moi, j'allais passer toute ma vie dans cette chambre d'hôpital. C'était devenu une normalité. J'avais mes copains de chambre, enfin, des chambres à côté, j'avais. On mange à telle heure, on n'a pas droit aux affaires, on doit aller chercher les affaires de toilette à 9h moins quart du matin, et puis on doit les remettre parce que voilà, dans le placard fermé, on doit manger, on a droit à l'accès à son placard avec du thé qu'à 8h du matin et à 16h, puis on doit rendre après, tout est régulé comme ça. C'était très angoissant pour moi de sortir de l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, ils m'ont gardé beaucoup plus que ce que j'aurais dû rester, parce que c'était mis à l'abri. Et ils savaient qu'à ce moment-là, j'étais tellement en grande fragilité encore, et si je retournais à la maison, j'allais mourir. Mais moi, j'étais prête à retourner à la maison.
J'imagine Mireille assise sur son lit d'hôpital, face à la fenêtre, le regard perdu, attendant de rentrer chez elle. J'aimerais la secouer, lui ouvrir les yeux, lui crier « Sauve-toi !» Mais Mireille est seule, les yeux voilés par l'emprise, le cerveau azimuté. Mireille flotte, elle n'est plus vraiment là.
Pendant cette hospitalisation, j'ai fait 3 mois et demi à Poitiers, puis 2 mois dans une clinique. Première permission. Je suis rentrée à l'hôpital en disant « ça va le faire, on va être un couple nouveau, qui ne va pas être un couple, et puis du coup il va me donner de la tendresse, et puis en contrepartie j'accepte qu'il couche avec d'autres, et qu'il parte le week-end avec son autre compagne, ou d'autres compagnes qui vont arriver dans sa vie, et puis les vacances aussi, et moi je le verrai que la semaine. » Et le week-end d'après, quand j'ai eu droit à la permission, là ça s'est vraiment écroulé.
Pourquoi ?
Parce que j'ai... Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. En parallèle de cette vie conjugale, le fait de l'hospitalisation a remis en relief ce que mon inconscient il avait rejeté. Et je me suis aperçue que j'avais. Enfin, c'était très net pendant les séances, que j'avais été abusée petite fille. Moi, je me suis construite comme un être monstrueux parce que je ne l'avais pas en tête, ça. Et donc lui, il a profité sûrement de ma faille de monstruosité. Et j'étais une femme monstrueuse, donc c'était obligé qu'il aille voir ailleurs, puisque moi j'étais un monstre. Et
ça, tu l'as compris hein.
Ça, je l'ai compris en 2019, quand j'ai travaillé sur moi. Et à l'hôpital, j'ai revu des images d'attouchement quand j'étais dans un voyage en URSS. À l'époque, c'était l'URSS en 86. Et dans un train. Quand je suis partie faire le tour de l'Europe, où je me suis retrouvée dans le wagon toute seule, j'avais quitté le copain avec qui j'étais. Enfin, c'était un copain, c'était un ami. J'habitais déjà avec mon mari. On n'était pas mariés.
C'est là que t'as été abusée ?
Quand j'étais petite fille. Et puis, c'est 2 fois, à 16 ans et à 20 ans. Et tout ça, c'est revenu à l'hôpital. Enfin, quand j'étais petite fille, c'est revenu lors de séances d'hypnose. Et j'en ai parlé à mon mari, c'était 2019. C'était encore une des nombreuses fois où il était parti. Je me suis pris ça dans la gueule toute seule. Je ne savais pas si je devais en parler aux enfants ou pas. Je ne savais pas à qui je devais en parler. J'avais plus de famille, coupée de la famille. Et donc ce jour-là, on est parti sur les bords de l'Oire dans la bagnole. On était très bien organisés. Moi, j'avais mon thermos de thé et tout ça. Et je lui raconte ce que j'avais vu en hypnose régressive. J'avais fait 5 séances. Et...
il t'a dit quoi ?
En fait, ça a légitimé toute l'horreur qu'il posait sur moi. Il n'était pas responsable. Et il tient encore ce discours. Maintenant, bon, parce que j'étais flinguée, j'étais tarée, j'étais folle, j'avais un problème avec mon corps, mais tout s'expliquait à l'aune des abus. C'est parce que j'avais été abusée petite fille, que j'étais une femme souillure pourrie, que j'avais ce comportement-là, et que lui, il n'en pouvait plus, et que donc il allait voir d'autres. C'était d'une logique implacable dans sa tête. Et au début de l'hospitalisation à Poitiers, c'est ce que je disais aux infirmières. Non, non, mon mari, c'est un homme bien, on va réinventer un couple, et en fait... il subit ce que je suis en train d'expulser de tous ces abus que j'ai vécu. Et ce soir-là, la dernière fois où j'ai eu une permission, je suis rentrée à l'hôpital. Donc là, l'infirmière vient dans la chambre pour vider le sac, pour fouiller si on n'a pas ramené des choses illicites. Et puis on fait un entretien. Et j'ai commencé à pleurer. Il est resté beaucoup avec moi. Il m'a donné des calmants, des cachets. J'avais tout. Et le lendemain, je croise une infirmière qui me dit alors. Il a demandé la garde alternée. Et là, ça voulait dire, alors votre mari a demandé et vous acceptez le fait qu'il vous demande que lui et sa maîtresse, que sa maîtresse et vous l'ayez en garde alternée. En fait, ça, des bulles ont explosé dans ma tête et j'ai dit, mais oui, c'est pas normal. Pourquoi j'accepte cette situation? Pourquoi j'accepte toute cette violence? Pourquoi j'accepte tout? C'était une violence de fou. Et là, je suis... jamais retourné chez moi. Il a longtemps...
Ça a été un déclic, ça.
Ben oui, ça a été un déclic. Mais j'avais très peur. Et j'ai commencé à parler. J'avais très peur, parce que... je savais que si j'allais parler, si je parlais aux copines, si je reprenais contact avec ma mère, si je voyais parler avec mes frères au téléphone...
Ça m'était fini de...
Oui, je pouvais plus retourner en arrière. Et j'ai appelé ma mère... le week-end du premier de l'an. C'était très dur. Parce que j'ai pas pu raconter vraiment à ma mère ce que j'avais vécu petite, parce que je veux pas trop qu'elle se sente coupable. J'ai raconté ce que j'avais vécu avec mon mari, pas tout. Elle comprend pas, parce qu'elle comprend sans comprendre. Elle comprend, mais elle comprend pas pourquoi je suis pas partie. C'est compliqué de dire pourquoi t'es pas partie. Pourquoi... Et puis j'ai parlé à des copines. Et une fois que j'avais parlé, je ne pouvais plus revenir en arrière parce que mes amis m'ont raconté ce qu'elles percevaient de moi et ce qu'elles voyaient qui me faisait. Et là, j'ai entendu. Donc, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Puis, de toute façon, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Mais je ne savais pas où j'allais aller. J'étais rien. J'avais peur. Et je voulais encore mourir. Je ne savais pas quoi faire.
Là, tu étais à l'hôpital encore ?
J'étais à l'hôpital. Donc, avec l'équipe de l'hôpital de Poitiers, on a convenu que quand même j'étais un peu fragile et puis que ça serait bien si je pouvais aller en clinique, ça allait me donner encore plus de temps. Puis je suis partie après, près de la mer, en clinique pour diminuer le traitement, pour ne pas rester un zombie. Et voilà, parce que c'est important de se faire aussi accompagner pour diminuer le traitement. Et là, pareil, ça a recommencé très vite où je me disais que j'allais vivre dans cet endroit tout le temps. Il n'y avait pas d'après. Et petit à petit, j'ai accepté l'idée de pouvoir aller chez mes enfants pour pas être à la rue. Ça paraît sordide, ça paraît drama, machin, mais... Et aussi, il s'est passé quelque chose à un moment donné à Poitiers. Je sais pas. J'ai accepté l'idée que ce que je vivais, c'était pas normal. Et puis, je suis allée voir une avocate à Poitiers. Et j'ai demandé le divorce. Et là, j'étais terrifiée. Terrifiée. Le 18 décembre, j'ai demandé le divorce.
Comment il a réagi ?
Ben en fait, avec toute la procédure et tout ça, c'est un temps très long, le temps judiciaire. Et il a cru jusqu'à la semaine dernière que j'étais encore à l'hôpital. Et il a compris en recevant l'assignation au divorce que j'étais pas à l'hôpital et que j'habitais chez nos filles. Là, il est devenu un peu fou, quoi. Parce que c'était la justice qui allait...
prendre le relais.
Oui, parce que dans son esprit, il est OK pour continuer à payer le crédit de la maison. Il est OK pour que j'habite cette maison et que lui, il ait à vivre ailleurs, comme une sorte de sacrifice. Et il est OK pour donc payer les charges de cette maison dans laquelle je habiterai enfermée et que je fasse de cette maison un centre pour femmes battues et pour femmes maltraitées. Et c'est ce qu'il proposait les derniers temps à l'hôpital. Et en même temps, il me racontait combien cette femme qu'il avait rencontrée était merveilleuse et combien on allait bien s'entendre, elle et moi. Et qu'il allait me la présenter quand je serais apaisée. Il n'a pas compris que j'ai voulu mourir. Il n'a toujours pas compris. Parce qu'il ne peut pas, dans sa folie, comprendre ça. Et...
Tu le crains, lui, encore ?
Oui. Oui. Je le crains et en même temps, il me fait de la peine. C'est complètement con.
Il essaie de te contacter ?
Oui. Par lettre. Donc, il m'a écrit des lettres et... qui n'ont pas de sens.
Il dit quoi?
Une lettre où il dit que... qu'il s'en veut, qu'il est triste de la situation, machin. Puis la lettre d'après, il dit qu'il n'est pas responsable et pas coupable, qu'il ne m'a jamais menti, jamais trahi.
À l'hôpital, le bocal dans lequel son mari l'avait enfermée explose. Mireille ne peut plus revenir en arrière. Elle va devoir quitter sa chambre d'hôpital et affronter la réalité. Elle est terrifiée, a mal partout. Mais la lumière commence à percer.
Je ne sais plus qui je suis. Je suis perdue dans moi. Et en même temps, c'est très étrange de... se sentir respirer.
Tu te sens plus légère ?
Oui. Mais je pleure beaucoup, je pense que c'est la fatigue. J'ai très peur de le voir, j'ai très peur de le revoir. Là, la prochaine étape, c'est aller dans ma maison, récupérer mes affaires.
Tu vas pas y aller seule.
Ça me paraît ahurissant de dire faut qu'il y ait les gendarmes, faut...
Merci.
Oui. Non, je vais y aller avec mes enfants, mais c'est pas mieux. C'est très bizarre. J'ai l'impression que, oui, j'ai disparu, que j'étais un fantôme, que j'étais enfermée toute seule dans cette maison. J'avais vraiment le sentiment que j'étais enfermée toute seule dans cette maison. Tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie, c'était une maison pour plus avoir de voisins qui font du bruit, pour plus être en HLM, pour un jardin. Et je me suis enfermée dans cette maison.
Il t'a enfermée dans cette maison.
Oui. Ça, c'est encore un travail de le chemin de la réparation avec les thérapeutes, mais oui. J'avais pas conscience à quel point j'étais dans l'emprise. Non. Et jusqu'à quel point je suis allée loin dans l'emprise par la peur. Mais je crois qu'au début, vraiment, c'est la peur d'être plus aimée et la peur d'être seule. Et pour cet appartement qui va se présenter à moi quand je vais quitter le foyer de mes enfants... Oui, c'est quelque chose qui me fait bizarre. Comment je vais faire pour vivre seule ? Qu'est-ce que j'ai droit ? Qu'est-ce que j'ai pas droit ? Qu'est-ce que je peux affirmer ? Est-ce que je peux acheter des yaourts nature avec du muesli dedans ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que... Il y a une perte de repère totale à la sortie d'hôpital, à la sortie d'emprise. Sans lui, j'ai pas de repère. Il validait tout. Il fallait que tout soit validé par lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais partie faire dans un supermarché les dernières fois où j'allais, parce qu'après, il y allait tout seul. Et j'avais des boîtes pour prendre du thé, des boîtes où mettre mon thé. J'en ai acheté trois la première semaine, donc elles coûtaient 1,75€. Et la semaine d'après, pour que ça soit joli et harmonieux dans mon étagère à thé, j'en ai racheté trois ou quatre à 1,75€. Ben, il fallait que je négocie, c'était scandale au supermarché, parce que je dépensais de l'argent, parce que c'était pas justifié. Et comment je pouvais justifier de... Tout était sujet à négociation. Et là, j'ai plus de négociation. Je suis dans une solitude avec moi-même où je négocie plus rien. Et donc, ça, je suis perdue. C'est une drôle d'expérience, oui. Oui. La solitude. Mais il est encore présent parce qu'il occupe beaucoup de mes pensées. Et ça, c'est pas normal. Il faut que ça parte. Il faut que... C'est fatigant. C'est vraiment fatigant.
Il prend beaucoup de place dans ta tête.
Oui, il prend beaucoup de place. Et, et puis les actions qu'on doit mener, faire les assignations de divorce, faire tous ces actes de appeler l'avocat pour dire voilà, je fais une liste de toutes mes affaires que je veux récupérer, je propose des jours, j'appelle la gendarmerie. Je fais partie des groupes de parole avec le planning familial, avec le CIDFF pour parler, quoi, parce que j'ai besoin. Je vais voir la psychologue, je vais voir le psychiatre. Tout me ramène à lui, c'est fatigant, quoi. Faut que ça parte, faut que je dise. Et en même temps, ça me paraît tellement ahurissant que je le protège encore. Par exemple, je ne veux pas porter plainte. J'ai pas porté plainte.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est lui faire du mal. C'est rentrer dans un processus qui va me fatiguer. Vraiment. J'ai pas la force. Je prends conscience que c'est grave et j'ai pas encore bien conscience que ce qui m'est arrivé est grave pour moi, parce qu'au niveau de ma valeur, c'est encore très diffus. Où est ma valeur? Est-ce que je suis... Est-ce qu'on peut m'aimer? Donc la plainte, j'ai pas envie d'être une vieille femme acariâtre qui se bat pour porter plainte et que ça soit le seul lien qu'elle entretient encore avec cet homme. J'ai l'impression que si va en tôle, parce que ça parle aussi de ça, ou s'il a des dommages à intérêt, parce que c'est des grosses sommes, ça parle aussi de ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va le mettre en colère, il va pas pouvoir payer, ou qu'est-ce que... J'ai plus envie, je suis fatiguée.
Mais tu reviendras pas en arrière sur le divorce, sur l'appartement. Tu y retourneras pas, t'en es sûre?
Oui. Déjà, je suis terrifiée à l'idée de...
Même s'il vient te chercher?
Ah non, il viendra pas me chercher. Non.
Pourquoi?
Peut-être que dans sa tête, il a enfin compris que j'étais pas aimable. Non, mais ça, je dis ça pour sur la plaisanterie. Mais oui, non, le risque, c'est qu'il... Bien sûr, quand il va... Qu'est-ce qu'il va stratégiser? J'en sais rien. Mais il a été tellement méchant. Il commence à se rendre compte. J'en sais rien. Puis les enfants, lui... Il parle plus. Je pense que ça lui fait quelque chose aussi. Il se rend compte. Voilà. Mais...
Je pense vraiment qu'il se rend compte.
Je sais pas. Non, je crois pas. Je sais pas. Non, mais moi, je... Non, c'est... Non, je n'irai plus. Et je crois que si je retournais avec lui, déjà, je pourrais plus me voir dans les yeux de mes enfants, parce que je commence à peine à me rendre compte à quel point j'ai failli mourir. Quand j'ai besoin de me nourrir beaucoup de littérature de femmes sous emprise ou de femmes... je lis beaucoup de livres. Et là, je viens de finir un livre qui s'appelle 125 et des milliers, Sarah Baruch. Elle parle de la moyenne des 125 féminicides dans l'année. Je lisais ce livre, donc dans le salon de mes filles, où je dors, et ma fille vient et elle me dit: tu vois maman, heureusement t'es pas dans le livre. Je crois que j'ai pas bien compris à quel point ils ont eu peur, les enfants. Ça me fait honte pour eux, enfin par rapport à eux. Donc je peux pas, après toute cette traversée qu'on a vécue, je peux pas leur dire déjà pour ça, quoi. C'est comme si c'était des veilleurs, comme s'ils me regardaient agir, comme si c'était ma conscience, et je peux pas leur dire: tout s'est arrangé avec votre père, je vais vivre à la maison. C'est pas possible. Donc, il n'y a plus de retour possible. Maintenant, il y a une reconstruction. Et quand je parle à mon frère et je lui dis ma peur d'être seule, de ne pas m'en sortir, de ne pas avoir de maison, et il me dit: mais t'es pas seule? Il y a nous. Et puis, de toute façon, t'as une maison. La maison de notre enfance où habite maman. C'est ta maison dans le village. T'es pas à la rue, tu vas, tu dors là-bas. C'est ta maison. Ça m'a un peu rassurée d'avoir une maison. Ça m'a rassurée que ce frère me dit: bah, tu vois, quand on sera vieux, on habitera la maison, on sera des vieux cons, et puis nos gosses, ils seront tranquilles, ils viendront nous voir ou pas. Et nous, on sera dans cette maison, et puis on fera le potager. Ça me rassure un peu. Mais oui, j'ai peur de... C'est toujours cette... Là, c'est encore le temps de... Chez mes filles, c'est comme si c'était encore le temps de l'hospitalisation. Je ne suis pas encore vraiment...
Dans la vie d'après.
Oui. Et j'ai hâte d'avoir récupéré les affaires. Aussi, ça fout le cafard aussi, quand on est obligé de faire une liste des affaires qui nous appartiennent pour avoir le droit d'aller les récupérer. Et pour donner à son avocate, pour que son avocate et que lui valide qu'une vie de 54 ans, ça tient sur une feuille, quoi. Et oui, j'ai hâte et j'ai peur d'aller récupérer ses affaires dans mes affaires dans la maison. J'ai peur de voir ma maison.
Tu t'es refait tatouer ?
Ouais. Oui.
Tu te rends compte que tu peux faire ce que tu veux maintenant ?
Non, pas encore. Pas encore parce que j'ai encore peur de manquer d'argent. Je me dis que je vais pas réussir parce que je manque d'argent. Et pour l'instant, il faut que je trouve le chemin de paix avec mon corps. Pour l'instant, j'ai une faim que j'arrive plus à contenir. Et ça, quand j'ai faim, c'est pas bon signe. Ça revient. Ça m'avait quitté, ça revient. Et j'ai peur de devenir un monstre infâme, informe. Très peur. Vraiment très peur. Mais en même temps, j'ai besoin de calme. Vraiment besoin de calme. J'ai besoin, des fois, quand je suis comme ça, chez mes enfants, la dernière fois, j'avais besoin d'aller voir ma mère, d'être dans les bras de ma mère. C'est spécial. Hein. Elle est loin. C'est pas facile de faire le trajet jusqu'au village. Oui. Et j'ai terriblement besoin de vivre avec ma famille. Enfin, mes frères et ma mère et mes cousines.
J'imagine Mireille dans le sud, dans la maison de son enfance, entourée de sa mère et de ses frères, le corps recouvert de tatouages, loin de l'ombre de son mari, au soleil, libérée du bocal et de ses chaînes. Le film se termine bien, même si la route sera encore longue. 30 années de maltraitance, la plaie est profonde, elle peine à cicatriser. La petite voix de son mari continue de murmurer à ses oreilles, mais elle s'atténue au fil des jours. J'ai confiance en Mireille. L'amour de ses proches l'aidera à trouver son chemin. C'est digne d'une réplique de série B, mais c'est pourtant vrai. L'amour fait des miracles. Il panse les blessures, fissure des beaux coups, apaise nos solitudes, redonne des couleurs, de la joie, de la confiance. Comme dit Hugh Grant dans le célèbre Love Actually, l'amour est la solution. Un grand merci à Mireille pour sa confiance. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast. Vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore éditoriale continue.
Une création
Blast.